Madame, Monsieur, bonjour. Continuons avec ces excellents romans qui viennent de paraître pour le début de l'année. J'ai désiré aujourd'hui vous proposer ces derniers et puis également un ouvrage de science-fiction un peu singulier, ainsi qu'un titre de roman policier d'un auteur qui marque toujours les esprits. Il s'agit de Paul Collies, un titre que j'ai totalement adoré. Alors commençons justement par ce titre. Paul Collies, qui est né à Bruxelles d'un père belge et d'une mère polonaise, nous propose ses polars, toujours bien ancrés dans les récits, qui flirtent habilement vers la littérature générale. Son œuvre a été largement récompensée et a obtenu différents prix. Dans la trame du livre qu'il nous propose aujourd'hui, il nous emporte et nous apporte des idées uniques et affiche une technique éblouissante, où il joue avec ardeur, spontanéité, sur des termes qui font réellement partie des priorités dans notre monde actuel. Ici, une histoire absolument superbe, empreinte de douleur, de gravité, un tantinet mélancolique, parfois, mais qui est magnifiquement écrit. Le livre procède l'intrigue, l'énergie d'un excellent roman, fascinant par le récit, aussi de souvenirs de famille, et demeure un vibrant témoignage. À travers ce roman, inspiré de faits réels, l'auteur soulève des questions fondamentales, l'immigration, le racisme, le sacrifice des femmes. Quelle que soit la période où se déroule l'histoire, les travers humains font naître toujours les mêmes tragédies. Le titre de l'ouvrage, « Devant Dieu et les hommes ». Ravivant l'histoire, l'auteur instille le doute, met à l'épreuve les préjugés. Un texte tragique et fort prenant. Le 8 août 1958 restera gravé dans les mémoires comme un jour qui a marqué l'histoire d'un pays, d'une de ses pages les plus tragiques. Lorsque la jeune journaliste d'origine polonaise déjeune avec son rédacteur en chef du journal Le Soir, Katarzyna, surnommée Catherine, ne s'attend nullement à être envoyée par son journal, pour le procès de la Marcinelle. En 1958, être une femme journaliste se révèle déjà un peu inhabituel. Mais alors, couvrir l'affaire dont tout le monde parle lui semble totalement exceptionnel. Et ce sera le cas. Elle est la seule femme à couvrir le procès et elle est sans cesse sujette à des mesquineries, des bassesses de la part de ses confrères journalistes qui suivent, des confrères journalistes masculins, qui suivent les débats du procès également. 2 ans auparavant, un incendie a fait rage au fond de la mine du bois de Cazier et a fait plus de 250 morts et très peu d'hommes ont pu être dégagés de cette fournaise. C'est au cours de cette catastrophe que 2 mineurs d'origine italienne auraient tué leur supérieur, ou tout au moins, de larges présomptions pèsent sur eux. Ce capot, qui donnait les ordres dans la mine, était infâme, n'hésitant pas d'ailleurs de réduire le salaire de ses hommes s'il le désirait. Les frappant ou ayant des propos orduriers à leur encontre. Ce sera une occasion rêvée pour Catherine de prouver son talent de reporter. Elle quitte pour quelques jours son jeune mari, qui est musicien de grand talent, et suit se poser hors norme. Immédiatement et de plus en plus, elle sent un lien personnel avec cette terrifiante histoire. Et d'ailleurs, elle comprendra aisément que l'on ne l'a pas envoyée ici par hasard. Le procès est largement débattu. On peut suivre le réquisitoire, la défense d'un jeune avocat qui défendra les deux accusés, un commissaire qui parle beaucoup, donne des arguments, mais invente en quelque sorte les délits et propose des pièces à conviction qui n'en sont rien. Les jours suivent ne se ressemblent nullement et je vais vous laisser découvrir le résultat du procès qui est absolument superbe et ce dans les dernières pages. J'ai adoré ces 320 pages dont certains faits réels ont pu être donnés d'ailleurs par les survivants de la catastrophe. Un coup de cœur pour ce livre qui est paru aux éditions HEC et que vous pourrez acquérir pour 19,50 €. À présent, je voudrais vous parler de Julia Kapnan qui est anglaise. Elle a exercé comme professeure d'anglais au Japon, en Australie, aux États-Unis et en France. Elle a même dirigé une auberge dans les Pyrénées avec son mari pendant 6 ans. C'est dire que son expérience, elle peut en parler sans souci. Aujourd'hui, elle habite dans les vallons du Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre, dont les paysages typiques qui lui ont inspiré sa toute dernière série de romans. Nous nous attelons avec l'auberge, les chroniques de Fogas, qui ont été traduites de l'anglais par Dominique Haas et Stéphanie Lénier. La petite commune de Fogas, dans les Pyrénées françaises, est secouée par une arrivée totalement inattendue. L'auberge des Deux Vallées, désertée depuis plusieurs années, laissée pratiquement à l'abandon, vient d'être rachetée, et ce, par un jeune couple d'Anglais. Lorna a démissionné d'un restaurant collectif et Paul, son mari, de sa place d'ingénieur, et tous deux récupèrent un chat dénommé Tomate, laissé par les anciens propriétaires et qui est nourri depuis par une jeune enfant du village. Les habitants de ce village, de Fogas, sont d'ailleurs assez consternés à l'idée de l'ouverture d'un restaurant anglais, car pour eux, c'est la certitude de désastre gastronomique. Alors que les jeunes propriétaires retrouvent dans leur restaurant des boîtes géantes de conserve, d'ailleurs totalement périmées, et ce dans la cave, et puis surtout que la jeune Lorna, la jeune femme, a bien l'intention de faire de la gastronomie française. Quant au maire, Serge Papon, il est de très méchante humeur, car il aurait désiré que son beau-frère reprenne l'affaire. Il convoque à maintes reprises des réunions de comités d'urgence au sein de la mairie pour ordonner des inspections, qu'elles soient sanitaires, hygiènes ou bien d'autres. Mais l'un de ses adjoints, Christian Dupuis, propriétaire d'un taureau qui s'échappe sans cesse, refuse les machinations de ce dernier et les vilaineries de son maire, car il a déjà tout simplement sympathisé avec les aubergistes qui sont pratiquement ses voisins. Une jeune femme aussi a décidé de les aider magistralement, car elle convoite une place de serveuse et lorsqu'elle s'est présentée, elle a été acceptée par ces derniers. Dans les 370 pages de ce roman poche, la romancière n'hésite pas à introduire grand nombre de réflexions cocasses ou bien des situations déroutantes. Amusant et fort bien mené. Cet ouvrage est paru aux éditions de Bourré-Manpoche et vous pourrez l'acquérir pour la somme de 9,10 €. Cet auteur, Albert Duclos, écrit depuis l'enfance. Il semble que l'écriture est son quotidien. Romans, poésie, contes et nouvelles sont en vente depuis. Après une carrière comme directeur d'établissement de soins, il publie son premier roman et obtient le prix du Cercle littéraire Médicis. Nous sommes nombreux à scruter et vérifier ses parutions, car son écriture nous emporte toujours dans le côté fascinant d'un sujet captivant et totalement maîtrisé. Un coup de cœur pour son titre aussi, qui vient de paraître pour ce début d'année 2024. Il s'agit des Toiles de la Discorde. Depuis qu'il est enfant, François aime dessiner tout ce qui l'entoure, que ce soit les champs, les animaux, et il se révèle particulièrement doué. Encouragé par l'un de ses professeurs de dessin du lycée, il va bientôt intégrer l'école des arts, pris en charge d'ailleurs par une bourse, car sa famille n'est pas très riche. Et il les suit très attentivement et assidûment. Ces derniers sont donnés par le Monsieur Fabre, qui est un artiste peintre lui-même. Et ce, chaque jeudi. Ce dernier reconnaît d'ailleurs en lui un réel don, dirigé vers la peinture et l'encourage fortement. Lors de ses différentes pauses de chevalier dans les champs également, il sympathise avec une jeune voisine qui habite la ferme proche. Il s'agit d'Emmeline, qui adore aussi le dessin, mais qui s'exprime dans une thématique différente de la sienne, beaucoup plus contemporaine. Il décide alors de la peindre et de la faire entrer dans les cours accessibles jusqu'alors seulement aux jeunes gens. Il a envie de faire un nu de cette dernière. Et après de nombreuses palabres, ils cherchent tous les deux un lieu pour réaliser l'œuvre, car le sujet n'est nullement apprécié autant par leur entourage que par les professeurs eux-mêmes. Sans compter que progressivement, de semaine en semaine, l'élève arrive pratiquement à maturité dans son art. Les deux jeunes adolescents se rendent au domicile alors et demandent au professeur Fabre la possibilité de peindre chez eux. Le couple les accueille sans souci. Monsieur Fab laisse à François et à Emmeline la possibilité de travailler dans son atelier, qui est situé au premier étage, de même que son épouse Clara, ancien modèle de son mari. Et ces derniers les invitent d'ailleurs à prendre le repas le dimanche, quand ils viennent peindre chez eux, après la séance dans l'atelier. Rapidement, L'élève se démarque totalement et semble même surpasser le maître, attisant parfois la jalousie de ce dernier. Magnifique d'émotion, l'auteur, conteur talentueux, nous emporte sans souci vers l'intrigue de son sujet et s'en approche avec brio. Détail que l'on retrouve tout au long du texte, une mésange qui s'invite lorsque le jeune peintre prend dépendance dans un lieu choisi extérieurement avec sa dulcinée. Il nous donne aussi un avant-goût des soucis artistiques rencontrés lors d'expositions. J'ai adoré et j'ai eu également grand plaisir à suivre cette intrigue, qui est totalement captivante. 260 pages qui ont paru aux éditions de Boré et que vous pourrez acquérir pour 20,40 euros. Et puis, chers auditeurs, je terminerai avec cet ouvrage de science-fiction captivant. Un texte totalement improbable pour un livre de science-fiction. Certes, elle a la même mise sur la teneur de l'ensemble, mais sont dénoncées à travers l'histoire les atrocités subies par les Juifs lors de l'occupation russe. L'auteur maîtrise à la perfection son thème, alternant très souvent passé et présent, et il plonge le lecteur dans un univers fort étrange où parfois roublerie et humour sont présents. Génaros, Nette Korte, romancière, folkloriste et poétesse, a fondé un groupe où une équipe de poètes est très présente. Elle propose des œuvres souvent accompagnées d'un spectacle d'ombre chinoise actionné par Marnivelle lors de tournées nationales et internationales et compose des poèmes sur commande pour des inconnus. Le titre de son livre, La maison aux pattes de poulet, qui a été traduit de l'anglais par Anne-Sophie Aumassel. Séparés depuis l'enfance, Bélatine et Isaac Yaga pensaient d'ailleurs ne plus jamais se revoir. Ce frère et cette sœur, la petite fille était restée au sein de la cellule familiale et Isaac avait quitté le domicile. Mais chose surprenante, ils apprennent qu'ils viennent d'hériter de leur grand-mère ukrainienne. Isaac laisse alors un temps son emploi d'illusionniste, un tantinet voleur également, toujours accompagné de sa fidèle chatte noire, enjoliveuse, récupérée auprès d'un ami acteur qui lui a appris d'ailleurs beaucoup de phases du métier. Il rejoint Bélatine dans le port où sera livré un mystérieux coach. Il se revoit et Isaac a beaucoup de difficultés à reconnaître sa sœur. D'ailleurs, il a quitté très tôt au sein de la cellule familiale. Chacun sont d'ailleurs alimentés par des sentiments surprenants et différents. Le colis livré est immense et en le découvrant, ils sont plus que surpris. Leur legs n'est ni une propriété, ni de l'argent, mais quelque chose de fort étrange. Une maison intelligente, juchée sur les pattes de poulet, qui réagit à des phrases yiddish. Bélatine tombe littéralement sur le charme de cette demeure et la baptise Pied de Chardon. Elle veut la garder et y vivre. Son frère lui propose alors de la transformer un an durant en théâtre, de partager les recettes et ensuite de lui donner et lui laisser la demeure. Mais il ne s'agit pas que d'une maison, elle possède une mémoire, une pensée et perçoit tous les événements. Et si elle a été expédiée de Kiev, foyer ancestral de la famille Yaga, elle a vécu des atrocités et elle est traquée par une entité maléfique dénommée Ombre Longue qui transforme pratiquement les humains en zombies et qui ne reculera devant aucun acte de violence pour détruire l'héritage de Baba Yaga. Et la fin sera peut-être victorieuse pour le frère et la sœur, mais elle sera de cendre aussi pour Pied de Chardon. Mais cela ne sera pas la fin de l'histoire, car il nous est précisé, tant que la maison est conservée en mémoire, elle pourra être racontée et ne s'éteindra jamais. Très belle phrase de souvenir, de résilience parfois, d'amitié aussi. J'ai adoré ces 530 pages qui ont paru aux éditions Albin Michel, 24,90 €. Voici, chers auditeurs, pour cette semaine, et je terminerai avec une citation de Gandhi. Celui qui voit un problème et qui ne fait rien, fait partie du problème. Comme toujours, notre antenne vous propose pour cette fin de journée sa programmation mise en place depuis le début de l'année. Bonne fin de journée pour vous. Ensemble, nous reprendrons rendez-vous pour lundi prochain pour d'intéressants titres. Au revoir.